VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du lundi 29 mai 2023. Les autorités maliennes protestent après l'imposition des restrictions de visa à deux officiers de l'armée par les États-Unis. Bola Ahmed Tinubu, le nouveau président du Nigeria, a prêté serment aujourd'hui à Abuja.
Moi, Bola Ahmed Tinubu, je jure de respecter et faire de mon mieux pour préserver et défendre la constitution de la République fédérale du Nigeria.
Reportage complet à suivre dans la partie magazine. L'Ouganda a durci sa loi anti-homosexualité malgré la réprobation de l'Occident. L'accord sur la dette américaine envoyé au Congrès, dure bataille politique en vue. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le gouvernement malien se dit stupéfait par la décision des États-Unis d'Amérique d'imposer des restrictions de visa à deux officiers de l'armée malienne. Dans un communiqué, Bamako indique que l'ambassadrice américaine a été conviée par le ministre des Affaires étrangères pour lui signifier la gravité des accusations portées contre le Mali. Notre correspondant dans la capitale malienne, Mohamed Danyoko, nous en dit plus.
Le ton du communiqué numéro 53 du gouvernement de la transition malienne semble quelque peu modéré comparé à ceux adressés à ce qu'il a nommé la junte française. Ainsi, la nouvelle ambassadrice des États-Unis, Rachna Koronen, n'est pas convoquée, mais plutôt conviée par le ministre des Affaires étrangères. Mais la modération semble s'arrêter là, car elle est conviée pour lui signifier, je cite, « l'extrême gravité des fausses accusations portées contre le Mali, la nature infondée des allégations confirmées par le porte-parole du département d'État américain, le refus des États-Unis de livrer en 2021 un avion de l'armée de l'air de type CASA et son silence troublant suite au bombardement par la France de civils à Bounti en janvier 2021 ». Si le gouvernement estime que ces mesures des États-Unis sont contre-productives, selon Abdourahmane Sissoko, directeur de publication de l'hebdomadaire malien Le Ouagadou, cet échange entre l'ambassadrice et le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop permettra de trouver des points d'accord. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
En Guinée, le procès historique du massacre du 28 septembre 2009 est suspendu, les avocats boycottant les audiences pour obtenir d'être payés au bout de 8 mois de travail. La Cour a donc renvoyé le procès à la semaine prochaine. Moussa Dadis Camara et ses co-accusés répondent devant la justice de dizaines d'assassinats et d'une litanie de crimes de violence sexuelle, actes de torture, enlèvement et séquestration commis dans un stade de la banlieue de Conakry. Et alentour le 28 septembre 2009 et les jours suivants. Au Nigeria, Bola Ahmed Tinubu a prêté serment aujourd'hui à Abuja et prend officiellement les rênes du pays le plus peuplé d'Afrique. Ses défis immédiats, résoudre la crise économique et venir à bout de la grave insécurité qui sévit au Nigeria. Le point avec Abdourahmane Dia.
En tant que président de la République fédérale du Nigeria, je m'acquitterai de mes devoirs et de mes fonctions honnêtement, au mieux de mes capacités, fidèlement et conformément à la Constitution, a déclaré le nouveau président lors de sa cérémonie d'investiture à Abuja, la capitale fédérale. De nombreux chefs d'État africains ont fait le déplacement alors qu'un important dispositif sécuritaire était déployé dans la capitale. Âgé de 71 ans, M. Tinubu succède ainsi à Muhammadu Buhari, du même parti que lui. L'ancien général de 80 ans se retire après 2 mandats, comme le prévoit la Constitution, et un bilan jugé décevant par ses critiques. L'investiture s'est tenue 3 mois après la présidentielle du 25 février, dont le résultat est contesté par les 2 principaux candidats de l'opposition. M. Tinubu devra s'atteler à redresser l'économie du pays, grand producteur de brut. Selon la Banque mondiale, plus de 80 millions des 215 millions de Nigérians vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une autre priorité du nouveau gouvernement sera de lutter contre l'insécurité. Le pays fait face à une insurrection djihadiste vieille de 14 ans dans le nord-est, à des bandes criminelles qui ravagent le nord-ouest et le centre, et à un mouvement séparatiste dans le sud-est.
Au Niger, 2 soldats et 55 terroristes, dont plusieurs hauts responsables militaires de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ont été tués lors d'une opération conjointe des armées du Niger et du Nigeria, menée du 6 au 28 mai, annoncée aujourd'hui l'armée nigérienne. Les combats ont encore fait rage aujourd'hui au Soudan, où les appels aux armes se multiplient au dernier jour d'une trêve d'une semaine, jamais respectée et que les médiateurs internationaux veulent prolonger. Les habitants de Khartoum ont raconté que des combats se déroulaient dans la banlieue nord et que des tirs d'artillerie étaient entendus dans le sud de la capitale, une ville de plus de 5 millions d'habitants. L'ONG Human Rights Watch a dit craindre aujourd'hui un usage excessif de la force par la police lors de futures manifestations politiques en République démocratique du Congo, après les félicitations du président Félix Tshisekedi à un commandant de ce corps. « Bravo pour le travail que vous avez fait, zéro mort, les voyous ont été maîtrisés, c'est très bien », lui a-t-il notamment déclaré. Note l'ONG de défense des droits humains, ces propos de M. Tshisekedi font craindre que l'enquête policière sur les violences manque d'impartialité et que le gouvernement encourage l'usage excessif de la force par la police lors de futures manifestations, s'inquiète l'organisation. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a signé l'une des lois anti-homosexualité les plus sévères au monde, incluant la peine de mort pour ce qui est qualifié d'homosexualité aggravée. Plusieurs pays occidentaux condamnent cette législation qui risque de provoquer des sanctions de la part des donateurs. Des militants ont promis une contestation en justice. Le point avec Nathalie Barge.
Les relations homosexuelles étaient déjà illégales en Ouganda, comme dans plus de 30 pays africains. Mais la nouvelle loi va beaucoup plus loin. Elle prévoit l'application de la peine capitale pour les récidivistes, selon les termes du texte, et la transmission du VIH-Sida par le biais de relations homosexuelles. Elle établit également une peine de 20 ans de prison pour promotion de l'homosexualité. L'Ouganda reçoit des milliards de dollars d'aides étrangères chaque année et pourrait faire face à des sanctions. Le parrain du projet de loi, Assouman Bassalirwa, a indiqué que le visa américain de la présidente du Parlement, Anita Among, a été annulé après la signature de la loi. L'Union européenne a réitéré sa condamnation du projet de loi en mars, qui avait également été condamné par les États-Unis. Le gouvernement américain a dit évaluer les implications de la législation pour les activités en Ouganda dans le cadre du PEPFAR, le programme phare de lutte contre le VIH-Sida. Le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a estimé que ce projet de loi draconien est discriminatoire et contraire à la Constitution et aux traités internationaux. Plusieurs militants ougandais des droits humains ont promis de contester cette loi. Le président a légalisé l'homophobie et la transphobie soutenues par l'État, a déclaré la militante Claire Biarugaba. Les personnes LGBTQ ont rappelé que l'adoption du projet de loi en mars avait déjà déclenché une vague d'arrestations, d'expulsions et d'attaques de foule.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, une dure bataille s'annonce cette semaine au Congrès qui va examiner l'accord sur la dette scellé durant le week-end par le président Joe Biden et le chef républicain Kevin McCarthy pour éviter un défaut de paiement cataclysmique. Les marchés ont réagi avec soulagement ce lundi à l'annonce de l'accord. Eric Manirakiza.
Nous sommes parvenus à un accord budgétaire bipartisan que nous sommes prêts à soumettre à l'ensemble du Congrès, a déclaré M. Biden lors d'une brève apparition devant les médias dimanche soir à la Maison-Blanche. M. Biden et le chef républicain au Congrès, Kevin McCarthy, ont mis la dernière main dimanche à cet accord de principe sur le relèvement du plafond de la dette américaine annoncé la veille après des négociations marathon. Dans ces grandes lignes, le texte de l'accord relève pendant 2 ans, donc jusqu'après l'élection présidentielle de 2024, le plafond de l'endettement public des États-Unis. Celui-ci est actuellement fixé à 31 400 milliards de dollars. Le compromis inclut aussi de nouvelles conditions imposées pour bénéficier de certaines aides sociales, dont les coupons alimentaires. Mais l'accord doit recevoir l'aval d'un congrès divisé et fait déjà l'objet d'une fronde d'élus progressistes et conservateurs, certains parlant d'une capitulation. Sur la chaîne Fox News, Kevin McCarthy a lui estimé que l'accord était tout à fait digne du peuple américain. Il a prédit qu'une majorité d'élus républicains voterait le texte. La Chambre des représentants, où les républicains disposent d'une fragile majorité, votera mercredi. Viendra ensuite le Sénat, contrôlé de peu par les démocrates.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Rosine Monezero.
Haïti, le Sahel et le Soudan font désormais partie des zones en alerte maximale. Le risque d'insécurité alimentaire pour ces populations est le plus préoccupant et nécessite une attention urgente de la communauté internationale, a mis en garde l'ONU ce lundi. La ministre israélienne des Transports a entamé ce lundi une visite au Maroc axée sur la coopération maritime, en particulier les liaisons entre les ports des deux pays, a indiqué le bureau de liaison d'Israël à Rabat. Miri Regev doit rencontrer son homologue marocain Mohamed Abdel Jalil et visiter les villes de Rabat, Casablanca, Tanger et Marrakech. La série d'accords bilatéraux qui seront signés relatifs aux domaines maritimes, terrestres et aériens renforcera encore la coopération entre les deux peuples, dit un communiqué. La visite aux États-Unis du ministre chinois du Commerce n'a pas permis d'aplanir les tensions, mais s'est conclue par la promesse de maintenir ouvertes les lignes de communication entre les deux pays. Dans un communiqué, l'ambassadrice américaine en charge du commerce a souligné avoir discuté de l'importance des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine et de poursuivre le dialogue entre les deux principales puissances économiques mondiales.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
En Angleterre, Mauricio Pochettino nommé entraîneur de Chelsea.
Tout à fait Jean-Roger, l'ex-entraîneur de Tottenham et du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino a été nommé entraîneur de Chelsea, a annoncé ce lundi le club anglais à l'issue d'une saison cauchemardesque pour les Bleus. L'Argentin, qui a signé un contrat de 2 ans avec une année supplémentaire en option, fait son retour en Premier League 4 ans après avoir été limogé de son poste par Tottenham. Mauricio est un entraîneur de classe mondiale avec un palmarès exceptionnel, ont affirmé dans un communiqué les copropriétaires de Chelsea.
En Allemagne, Bellingham est élu joueur de la saison.
L'Anglais de 19 ans, Jude Bellingham, milieu du Borussia Dortmund, courtisé par le Real Madrid, a été élu ce lundi joueur de la saison 2022-2023 du championnat allemand, auteur de 8 buts et 4 passes décisives. Bellingham a été l'un des acteurs majeurs de la saison de Dortmund, deuxième à égalité de points avec le Bayern Munich, sacré champion pour la 11e fois d'affilée. Après sa 3e saison en Bundesliga, Bellingham s'est installé comme un joueur clé du dispositif de Dortmund avec 31 matchs joués sur 34 journées, dont 30 comme titulaire.
En Ligue Europa, on décrypte les secrets des triomphes du Séville FC.
6 fois vainqueur de la Ligue Europa depuis 2006, un record, le Séville FC, devenu le véritable spécialiste de la compétition, qu'il va tenter de s'adjuger une 7e fois mercredi contre la AS Rome de José Mourinho. Dans l'ombre des géants du championnat d'Espagne depuis toujours, le Séville FC n'a jamais réussi à se faire une place sur le plan national, sauf un seul titre à remporter en 1946. C'est donc sur l'Europe que les dirigeants ont jeté leur dévolu. Après le doublé en 2006-2007, le club a basculé dans une notoriété européenne et à partir de là, il s'est approprié la compétition avec 4 nouveaux sacres en 2014, 2015 et 2016, puis en 2020, au fil des 6 sacres, à Séville, ville de chevaux, de taureaux, mais aussi de football. La Ligue Europa a acquis une importance primordiale.
Le Népal célèbre les 70 ans de la conquête de l'Everest.
Les fils du Néo-Zélandais Edmund Hillary et du Népalais Tenzing Norgay Sherpa ont présidé ce lundi aux célébrations au Népal du 70e anniversaire de la conquête historique par leur père de l'Everest, la plus haute montagne du monde. La conquête du toit du monde culminant à 8 849 mètres d'altitude le 29 mai 1953 a changé l'alpinisme à jamais et couvert de gloire le Néo-Zélandais et son guide népalais dans le monde entier.
Page des sports, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Nigeria, la cérémonie d'investiture du nouveau président s'est déroulée dans la matinée. À Abuja, la capitale fédérale, Muhammadu Buhari a officiellement cédé son fauteuil de président à Ahmed Bola Tinubu, élu en février dernier. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Pour cette transition démocratique et pacifique, la mise en scène était particulièrement soignée. Peu après 10 heures, le cortège de l'ex-président Muhammadu Buhari pénètre dans Eagle Square, devant ses militants et des invités à la cérémonie pour remettre le pouvoir à son successeur, Ahmed Bola Tinubu. Puis, le moment tant attendu est arrivé et le président élu prête serment en ces termes.
Moi, Bola Ahmed Tinubu, je jure de respecter et faire de mon mieux pour préserver et défendre la constitution de la République fédérale du Nigeria.
Face au chef d'État africain présent et une foule de militants, le nouveau président nigérien a décliné l'essentiel de ses promesses et priorités pour les quatre prochaines années.
La sécurité doit être la priorité absolue de notre administration, car ni la prospérité ni la justice ne peuvent prévaloir dans l'insécurité et la violence.
L'investiture du nouveau président Bola Ahmed Tinubu pour diriger durant les quatre prochaines années le pays le plus peuplé d'Afrique était suivi par beaucoup de Nigériens.
Ils doivent faire face au problème de l'insécurité. Si la sécurité est assurée, les autres choses bouseront. Les gens qui sont loin à Maïdougouri diront à quoi ils sont confrontés et d'où vient leur nourriture. Est-ce dans la ville d'Abuja ici? C'est dans les villages, mais ils ne peuvent pas aller dans les champs.
Je ne peux pas m'attendre à quelque chose de bien d'un gouvernement illégitime, vous comprenez? Mais je sais qu'ils savent jusqu'où ils iront. La personne dont nous parlons n'est même pas en bon état de santé. Nous savons ce que nous avions traversé sous le régime de Buhari.
Monsieur Bola Tinubu du parti au pouvoir, le All Progressives Congress, APC, a remporté l'élection présidentielle en février dernier. Il va diriger la plus grande économie d'Afrique, confrontée à de nombreux défis allant de l'extrémisme violent et l'instabilité politique au ralentissement économique et de la corruption. Le successeur de Muhammadu Buhari a prêté serment, mais sa victoire est toujours contestée par une bonne partie de l'opposition devant la justice nigériane. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, face à l'afflux de réfugiés burkinabés dans les zones nord et nord-est du pays, le Conseil national de sécurité et ses partenaires coordonnent leur stratégie d'assistance. Au cours d'une récente réunion à Ferke-Sédougou, il a été question de concilier leurs interventions en matière de gestion du flux important de réfugiés burkinabés dans les zones du nord du pays. Les détails dans ce reportage de Delphine Bouise, notre correspondante à Abidjan.
À la frontière nord de la Côte d'Ivoire, les réfugiés burkinabés sont beaucoup plus présents dans les départements de Kong et de Ouangoulou-Dougou. Et Ferke-Sédougou a abrité une récente réunion de coordination du Conseil national de sécurité CNS et l'ensemble des humanitaires pour fusionner leur appui en matière de prise en charge migratoire. Le ministre secrétaire exécutif du CNS, Fidel Sarasoro.
Depuis le mois de décembre de l'année dernière, nous avons eu un afflux de réfugiés en provenance essentiellement du Burkina. Nous avons donc examiné les différents aspects liés d'abord à la coordination au niveau central, la coordination au niveau local qui sera faite par les préfets de région. Nous avons également examiné les questions d'assistance en vivres et en non-vivres, et les questions liées à la situation de la protection de ces réfugiés. Mais surtout, nous avons parlé également de la question sécuritaire d'une façon générale. Nous avons d'ailleurs félicité et remercié ces populations qui ont accueilli ces populations venues du Burkina.
Les réfugiés racontent leur intégration au sein des familles locales.
Nous sommes ici, ça fait presque une année comme ça. Notre premier souci, c'est avoir la paix là où nous sommes.
Dès qu'elles sont arrivées ici, il n'y a pas de problème. En tout cas, ils les ont bien accueillis.
Des mouvements de population que certains habitants tiennent à relativiser.
Nos réfugiés, nous, on avait accueilli dans nos familles. C'est notre voisin, c'est notre famille. S'ils viennent, on ne peut pas les laisser dehors. Pour le moment, on n'a pas fait leur camp.
En effet, le site de transit de Nironigué devant abriter les réfugiés burkinabés est en cours d'aménagement. Bâti sur une superficie de 10 hectares et situé à 3 km de la ville de Ouangloudougou, il a été visité par la délégation du CNS et ses partenaires. Écoutons à nouveau le ministre Fidèle Sara Soro. Il est le secrétaire exécutif du CNS.
Et on voulait s'assurer qu'avec cet afflux-là, on ne prenait pas de risque pour la population d'accueil et la population ivoirienne. Nous allons nous assurer que tous ces sites-là soient sécurisés. Et l'objectif, c'est que dès que les conditions seront réunies, que ces populations-là puissent retourner le plus rapidement possible dans leur pays. Et les partenaires se sont montrés disposés à accompagner la Côte d'Ivoire. Nous avons entrepris un recensement biométrique de ces personnes. Et aujourd'hui, nous sommes en capacité de dire que, selon le HCR, ils sont à peu près 21 000, mais il y a 10 000 qui ont été profilés et pour lesquels nous avons des références biométriques.
La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent une frontière commune longue de 584 km. Et depuis le 29 juillet 2008, les deux pays ont signé un accord de traité d'amitié et de coopération. Delphine Bouise, Abidjan. VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Cameroun, les quatre opérateurs de téléphonie mobile écopent de sanctions pécuniaires de l'ordre de 6 milliards de francs CFA. L'Agence de régulation des télécommunications, ART, leur reproche des manquements dans le suivi de leurs obligations et de couverture de qualité de service. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Julenta.
L'Agence de régulation des télécommunications précise que ces sanctions pécuniaires ont été prises après plusieurs missions de contrôle suivies des mises en demeure adressées aux quatre opérateurs depuis l'an dernier. Pour les abonnés, ces sanctions tombent à point nommé. Jean-Christian Kamgué, commerçant au marché central de Yaoundé.
La NAC, ces opérateurs faisaient déjà aux Camerounais. Ce n'était pas bien. Tu prends un forfait, appel utilisé, c'est déjà fini. Tu ne comprends rien. Donc on devait même les frapper même plus que ça.
C'est aussi avec grande satisfaction que Joël Wangchu, un vendeur de livres, dit avoir accueilli ces sanctions prises à l'encontre des opérateurs de téléphonie mobile.
C'est à féliciter, sinon on ne peut pas savoir si l'État est là pour contrôler ou pas.
Le 13 février dernier, l'Agence de régulation des télécommunications avait dans un communiqué tiré la sonnette d'alarme sur la dégradation persistante de la qualité de service offerte par les réseaux de téléphonie mobile. Les usagers, à l'instar de Joël Wangchu, disent subir encore les mêmes désagréments.
Il y a des endroits où d'office, quand tu es là, comme à l'ouest, tu es au niveau de Bafout, donc après Tchang. Donc il faut encore remettre des antennes un peu plus captives. Les gens comme à l'est, comme ça, tu ne peux pas facilement joindre quelqu'un là-bas.
L'opérateur Orange Cameroun écope de la plus lourde sanction pécuniaire, soit 2,2 milliards de francs CFA. Camtel, la compagnie de téléphonie mobile à capitaux publics, hérite de la plus petite sanction qui s'élève à 800 millions de francs CFA. MTN et Viettel, les deux autres opérateurs, ont été respectivement sanctionnés à verser 1,6 milliard et 1,4 milliard de francs CFA. Mohamedou Awalou, conseiller technique à l'Agence de régulation des télécommunications.
L'agence a obtenu une force que nous appelons communément le privilège du trésor. Et ce privilège nous permet d'aller recouvrir par des canaux spécifiques ces créances.
L'Agence de régulation des télécommunications n'exclut pas des sanctions administratives contre ces quatre opérateurs, notamment la réduction de la durée de concession, le cas échéant, le retrait de la licence d'exploitation. Séraphin Etobok, président national de l'Association camerounaise des consommateurs du secteur des télécommunications et des TIC.
Nous sommes ravis de ce que le gendarme du secteur, qui est l'ART, ait finalement sifflé, nous l'espérons, la fin de la récréation.
Les quatre opérateurs sanctionnés n'ont pas encore officiellement réagi, mais ils peuvent faire des recours d'après les textes. Depuis un mois, les abonnés des compagnies Orange et MTN ont initié une campagne de boycott baptisée « Mot d'avion » qui consiste à rester injoignable pendant une heure chaque jour. Yaoundé, Emmanuel Jolmoutap, VOA Afrique.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Les Américains célèbrent ce lundi le Memorial Day, une fête dédiée à ceux qui sont morts en servant dans les guerres américaines. Chaque année, le dernier lundi du mois de mai, les gens affluent à Washington pour décorer les tombes des militaires tombés au combat, assister à des défilés et visiter des monuments nationaux. Penelope Poulou nous en dit plus. Récit Blanche Sanou.
Au cimetière national d'Arlington, des drapeaux américains décorent les tombes de plus de 228 000 militaires morts pour la patrie. Pour cette cérémonie annuelle dénommée Flag In, qui a commencé en 1948, plus de 1000 soldats et volontaires ont placé des drapeaux devant les pierres tombales pour le Memorial Day, un jour férié aux États-Unis, observé le dernier lundi du mois de mai, en l'honneur des militaires qui ont sacrifié leur vie en combattant pour leur pays. À Washington, plus d'une douzaine de monuments militaires sont dédiés à ceux qui sont morts en combattant pour les États-Unis dans des conflits allant de la Révolution américaine dans les années 1700 aux conflits modernes comme les guerres d'Irak, d'Afghanistan et au-delà. L'un des points les plus connus du Memorial Day est le Marine Corps War Memorial, avec une statue inspirée de la photographie emblématique de 1945 des marines levant le drapeau sur l'île japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Au mémorial de la Seconde Guerre mondiale, des piliers de pierre et des colonnes de bronze honorent plus de 400 000 militaires américains tombés dans ces conflits. Au Vietnam Veteran Memorial, les noms de plus de 58 000 hommes et femmes qui sont morts au service de cette guerre controversée sont gravés sur un imposant mur de granit noir. Des millions de visiteurs viennent dans la capitale américaine le jour du Memorial Day, non seulement pour pleurer les morts, mais aussi pour célébrer la journée et s'amuser. Une tradition de longue date a lieu chaque année à Washington sur le National Mall, la parade nationale. Elle présente des fanfares militaires et des unités de marche. Le Memorial Day est aussi un jour d'optimisme, marquant le début de la saison estivale aux États-Unis.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bignot à ce micro, à la mise en onde Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Thank you.